Grand merci à vous. À cette heure, je suis roi. Déclaration de Louis XIII à l'annonce de l'assassinat de Concino Concini.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Concino Concini est sans doute, dans l'histoire du XVIIe siècle français, un personnage à la réputation sulfureuse. Ambitieux, comploteur, désireux finalement de dominer la reine-mère Marie de Médicis et de dominer par là même le roi Louis XIII. Alors essayons de replacer le personnage dans son contexte. Concino Concini est un Toscan, c'est un Florentin. Il est né dans la capitale du Grand-Duché en 1569. Il est issu d'une famille de la noblesse toscane et ses parents et grands-parents avaient occupé des postes importants. Ainsi, le grand-père avait été nommé ambassadeur auprès de l'empereur Maximilien de Habsbourg. Et quant à son père, Giambattista, il avait été le premier secrétaire du Grand-Duché de Toscane. Donc, une famille de relative bonne noblesse italienne. Mais ce qui fait que Concino Concini est véritablement passé à l'histoire, et à l'histoire de la France en particulier, c'est qu'il est entré dans l'entourage de Marie de Médicis. Or, celle-ci est appelée à devenir reine de France par son mariage avec Henri IV en 1600. Et Concini traverse les Alpes avec sa protectrice. Il est décrit d'ailleurs très vite comme quelqu'un de prétentieux, d'arrogant, et qui a des visées plus hautes que sa fonction et que son statut. Ce qui est vrai également, c'est que, en épousant Leonora Galigai, il épouse quelqu'un qui espère également s'élever dans la hiérarchie du pouvoir par la proximité que la famille Concino Concini a avec la reine-mère. Henri IV, dans un premier temps, n'est guère enthousiasmé par le personnage. Il le trouve effectivement quelque peu encombrant. Mais inversement, petit à petit, il apprend à apprécier un homme plutôt gai, qui aime jouer aux cartes et qui passe quelques heureuses soirées avec le roi de France. Il lui confie également quelques missions diplomatiques de l'autre côté des Alpes, et il va en faire tout de même le premier maître d'hôtel et le premier écuyer de Sa Majesté. C'est vrai également tout de même que, du vivant même d'Henri IV, il y a à la cour et au sein de la haute noblesse française une antipathie vis-à-vis du personnage, parce que celui-ci connaît sa valeur et le chroniqueur Pierre de l'Étoile rapporte régulièrement des incidents liant noblesse française et Concini. En particulier, celui-ci avait fait preuve de légèreté en entrant au Parlement de Paris sans ôter son chapeau. Or, seul le roi pouvait faire de cette sorte. Aussi, quand Henri IV est assassiné, eh bien, Concino Concini va estimer que sa proximité avec la reine Marie Médicis, qui est devenue régente par la mort brutale de son mari, dans la mesure où Louis XIII n'a que 8 ans, eh bien cette situation va lui permettre de s'élever socialement et sur le plan politique. Et c'est ce qui l'advient, puisque Concino Concini va acheter le marquisat d'Ancre et il va se faire nommer par la reine-mère premier gentilhomme de la chambre, surintendant de la maison de la reine, ainsi que gouverneur de Péronne et Montdidier, avant d'être élevé, au scandale de la grande noblesse, à la dignité de maréchal de France en 1613. D'autre part, il obtient également la création finalement d'un réseau de clients sur lequel il peut s'appuyer, et parmi ceux-là, il y a un futur cardinal appelé à jouer un rôle déterminant, Armand Duplessis de Richelieu. Il faut s'arrêter quelques instants sur le rapport qu'a pu avoir Concino Concini avec la grande noblesse française pendant la régence de Marie de Médicis. En fait, ces rapports peuvent être analysés sur deux plans. Le premier plan, c'est une italophobie. Il y a effectivement, depuis l'époque de Catherine de Médicis, une méfiance qui s'est répandue dans les hautes sphères de la société française envers les Italiens, les conseillers italiens. Catherine de Médicis était arrivée elle-même avec des conseillers italiens à la cour de France. Et Concino Concini est un peu sur la même lignée, c'est-à-dire l'arrivée des Italiens dans les sphères du pouvoir. Et d'ailleurs, on peut estimer que plus tard dans le XVIIe siècle, Mazarini, le cardinal Mazarin, sera un peu de la même veine. Et cela crée des jalousies, crée indéniablement un sentiment de rejet de ces Italiens qui prennent de la place au sommet du pouvoir royal. Mais il y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le rôle que la noblesse veut jouer. Il y a ce que la grande historienne Arlette Johanna a appelé le devoir de révolte. La noblesse française, et en particulier les grands, estime qu'il est légitime pour eux de porter conseil au souverain, d'être à côté de lui, de participer aux affaires. Et d'ailleurs, ceci explique les révoltes nobiliaires qui vont secouer la France au XVIe siècle, mais également durant une partie du XVIIe siècle. Ce sera le cas sous la régence de Marie de Médicis, ce sera encore le cas dans notre région avec Montmorency, ou plus tard, au moment de la Fronde. C'est-à-dire que ce devoir de révolte, c'est de s'opposer à la confiscation d'un pouvoir auquel les grands estiment avoir également droit. Et finalement, Concino Concini est victime aussi de ce sentiment de la noblesse française qu'il faut participer à l'exécution du pouvoir, à la formation du pouvoir auprès du roi de France. Et finalement, Concino Concini est un gêneur parce qu'il a tendance à accaparer les places, à placer des proches dans les sphères les plus importantes du pouvoir, au détriment de la vieille noblesse française. Ce qui fait qu'il est sincèrement détesté, d'autant plus qu'il n'hésite pas à faire place nette autour du roi, comme en 1616, lorsqu'il obtient la disgrâce du chancelier Nicolas Brûlart de Sillery, et qui est évidemment extrêmement mal vécu par une bonne partie des élites françaises. Mais il est également détesté par le petit peuple, en particulier le petit peuple parisien, parce que Concini est vécu finalement comme un homme qui participe à une augmentation des impôts, ce qui n'est jamais extrêmement bien vu. Or, Louis XIII se lasse de la présence de Concino Concini et il va effectuer un coup de majesté, c'est-à-dire un coup de force pour éliminer le gêneur. Il est aidé en cela par le duc de Luynes, qui est maître de la fauconnerie du roi et très proche du souverain. Il est décidé finalement, non pas d'arrêter, semble-t-il, Concino Concini, mais semble-t-il de l'exécuter sans forme de procès. En effet, lorsque Concino Concini se présente à la porte du Louvre le 24 avril 1617, il est encerclé par des hommes d'armes du baron de Vitry, qui est le capitaine des gardes de Sa Majesté, et celui-ci lui dit que « de par le roi, je vous arrête ». Or en fait, avant même que Concino Concini ait pu réagir, il est véritablement transpercé de coups par les gardes qui entourent le capitaine de Vitry. On sait par exemple qu'il a reçu un coup de pistolet à la tête, à la gorge, et ce qui fait qu'il est mort quasiment dans les premiers instants de cette soi-disant arrestation, et on l'achève à grands coups d'épée. C'est à ce moment-là que Louis XIII remercie ceux qui ont exécuté le maréchal d'Ancre avec cette phrase « Grand merci à vous, à cette heure, je suis roi ». Effectivement, le souverain qui a à peine 16 ans, eh bien, a le sentiment que l'élimination physique de Concino Concini le rend véritablement roi de France. Mais le corps de Concino Concini va subir des avanies. En effet, la dépouille avait été exhumée de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, où on avait trouvé un emplacement de sépulture pour le favori déchu. On traîne le cadavre dans les rues de Paris, il est profané, lynché véritablement, et après avoir été lapidé, il est pendu par les pieds sur une potence que le favori avait d'ailleurs fait élever du côté du Pont-Neuf. Le corps est dépecé, les restes sont brûlés. Quant à sa femme, Eleonora Galigai, elle n'échappe pas à la vindicte. Elle est jugée pour trahison, pour sorcellerie, pour juiverie, pour pratique de magie et d'astrologie judiciaire. Elle est condamnée donc pour crime de lèse-majesté divine et humaine. Et elle sera exécutée en place de grève le 8 juillet 1617. Les Concini s'étaient élevés ensemble, ils ont chuté ensemble.